OVNIs, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, complots d'État, Big Brother, mystère des pyramides. Tous les soirs, témoignages et révélations. Entre 21h et minuit, Bob vous dit toute la vérité, maintenant sur le web.
Excellente soirée, excellent moment encore une fois que nous vivons ce soir à l'écoute de cette web radio unique en France et en Europe et dans le monde francophone d'ailleurs. On est rare à vouloir avoir une autre information. Et je dis soirée que l'on passe parce que moi aussi je m'écoute. Hein. Je veux dire une chose, enfin surtout j'écoute mes invités. C'est ça qui est fantastique. Oui, parce que c'est ça, Bob, vous dites la vérité, c'est celle de mes invités. À noter que il y a un top secret qui est sorti et dans lequel vous avez un code promo qui vous permet, si vous n'êtes pas encore abonné, puisque ces 6 premières minutes de chaque heure sont en accès libre, de vous abonner avec 20% de réduction sur l'abonnement à un an. Il y a Nexus qui sort également très prochainement. Oui. Là aussi, vous y trouverez des petites choses très sympas. On y parle également des rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Donc, Nexus, top secret, Ufomania, si on sait inexpliqué, psychologie réussir, si on sait conscience, si on sait NDE, voilà des titres qui partagent le même goût de la vérité et qui sont à nos côtés.
Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit.
Alors, ce soir, je reçois quelqu'un qui a ouvert un peu la voie hein, et qui un peu fait partie de nos pères.
Ah oui.
C'est Richard Glenn, du côté du Québec. Salut Richard.
Oui, bonjour Bob, ça fait longtemps. Bravo. Hey, Bob, vous êtes tombé dans la potion magique. C'est incroyable le dynamisme que vous avez continuellement depuis maintenant près de 2 ans.
Eh oui. Mais vous savez, Richard, je suis un éternel enfant. Et à chaque fois que je reçois des gens qui partagent le même goût de l'aventure, de la découverte, du questionnement, ça m'excite à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça.
Ben justement, j'ai très hâte de recevoir Bob ici au Québec pour le congrès parce que je vais profiter de ton passage, de ta présence parmi nous, oui, pour interroger Bob, parce que Bob interroge beaucoup, beaucoup de gens, et 3 par jour, et ça fait beaucoup de monde, c'est de l'accélérer, c'est un peu comme le TGV, on sait bien, ça vient de France, le TGV, alors avec Bob, c'est du TGV dans l'insolite, dans les prises de conscience. Et j'imagine que le grand public est en train de réaliser qu'avec Bob, c'est unique comme cheminement. Là.
Bah écoute, en tout cas, je ne sais pas s'il le réalise, mais moi, je prends mon pied à le faire quotidiennement et on s'aperçoit qu'on ouvre une brèche. Peut-être que d'autres vont s'y engouffrer, mais dans tous les cas, on a une autre vision de la vie. Et c'est ce qu'on va essayer de partager d'ailleurs au mois de mai et juin, c'est-à-dire que le samedi 31 mai, le 1er juin, avec ce congrès UFO 401. Il faut qu'on en parle quand même parce que déjà, c'est un congrès UFO. Alors, nous, on relaie beaucoup l'information. On a posté la vidéo, d'ailleurs, qui présente ce congrès. On voit qu'il y a beaucoup d'invités lors de ces 2 jours. Pourquoi ce congrès, Richard?
Mais la principale raison, c'est que depuis quelques années, avec Internet, on découvre que l'ufologie a pris un essor tout à fait nouveau, remarquable, dans une direction qui est complètement sauvage. On ne sent pas de directive derrière tout ça. Et là, il y a du meilleur au pire sur Internet, des vidéos, des photographies, des témoignages. Des gens, je te dis, c'est vraiment j'allais dire un terme français qui, je pense, un bordel.
Oui, ben, tu peux le dire, ouais, c'est sûr.
Oui, bon, OK. Alors, oui, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Et puis, je me sers de les fameuses poupées Matryoshka.
Ouais.
Les poupées gigognes, là, des poupées russes là, qui s'emboîtent les unes dans les autres, pour essayer d'expliquer que le phénomène OVNI, c'est exactement comme ces fameuses poupées qu'il faut mettre dans l'ordre. On peut pas mélanger les poupées. Mm. Si tu as une poupée qui est avec le chapeau rouge ou le châle rouge, l'autre est jaune, l'autre est bleu, il faut pas mélanger les poupées quand on les emboîte les unes dans les autres. Et il y a une signification derrière tout ça. C'est d'ailleurs le logo, on pourrait dire, de notre congrès, UFO 401. Je pourrais expliquer aussi pourquoi on l'a appelé 401. C'est qu'à l'université, quand on va suivre des cours en psychologie 101, c'est la base. 200, 300, 400, on monte. Alors là, le congrès ufologique qu'on fait à la fin du mois de mai, avec la présence de Bob et de Mathieu, parce que vous allez faire un reportage en même temps sur notre activité, j'ai pensé faire le pont entre l'Europe et l'Amérique. Et là, on a une soirée complète avec des invités américains qui, je pense, sont des très gros canons de l'ufologie américaine. Je pense que tout le monde les connaît par les traductions des documentaires qui viennent des États-Unis. Je pense à des émissions comme Présence des extraterrestres. Avez-vous ça, nos ancêtres, les extraterrestres?
Nous, on a une émission qui s'appelle Alien Theory, je ne sais pas si tu connais ça. Et justement, ils parlent des anciens astronautes, tu sais, les anciens extraterrestres, etc.
Oui, exactement. Alors, ceux qu'on voit très souvent dans ces émissions-là, ben, ça va être Linda Moulton Hall, qui va être avec nous en personne. Kerry Cassidy, du projet Camelot, qui va être là. Richard Dolan, qu'on voit à toutes les émissions américaines.
Oui, très souvent.
Richard Dolan, qui est un spécialiste historien en ufologie, auteur aussi. Ce sont des gens qui viennent des États-Unis, qui vont être avec nous. Bob, tu vas avoir l'occasion de les rencontrer, de les interviewer. Alfred Webb Lambremont, qui se trouve à être celui qui a créé le mot exopolitique. Et il a travaillé avec la Maison-Blanche et il a fait avancer beaucoup le fameux projet Disclosure Project du Dr. Greer. Alors, on a une panoplie d'invités américains qui parlent qu'en anglais. Alors là, il y a des gens qui vont me dire comment on va faire si on comprend pas l'anglais.
Ouais.
Parce que vous savez que le congrès va être diffusé simultanément sur Internet.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire que c'est ça, les gens en France, là, vous pouvez suivre le congrès de chez vous. Évidemment que les heures, là, quand nous, on a passé une chose, c'est que mes invités qui sont d'Europe, j'en ai deux qui sont d'Europe, il s'agit de Mme Bluette Dio et Christian Comtesse.
Voilà, deux personnalités qu'on reçoit très souvent ici, bien sûr.
Exactement. D'ailleurs, c'est de chez vous que je les ai connus. C'est ça qui est formidable avec ton émission, Bob. On fait des découvertes dans le monde dont on n'entend à peu près jamais parler. Des fois, ce sont des auteurs, écrivains de livres, puis on doit savoir que écrire un livre de 200-300 pages, ça prend des mois et des mois à préparer, à structurer. Quelqu'un peut parler rapidement, comme on fait là, dans une entrevue de radio, mais quand on a un livre qui est écrit, tous les mots sont pesés, les chapitres, tout est pensé. Et ce sont des gens qui ont fait un travail préalable avant de s'exprimer sur des sujets. Ils ont vraiment réfléchi la chose, la jeter sur papier. Écrire un livre, c'est quelque chose. Alors, quand vous recevez des auteurs de livres, moi, je trouve ça comme une garantie de leur compétence, parce que s'ils écrivent un livre, il a fallu qu'ils réfléchissent avant d'écrire. Comme on dit, la lettre demeure, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, on fait attention à ce qu'on écrit.
Eh oui, bon, fatalement.
Oui, pour revenir au congrès, Bob, donc dans la fameuse soirée, comme ça va être des Américains qui ne parlent qu'anglais, on va, pour la diffusion simultanée sur Internet, aux gens qui auront acheté leur billet en allant sur le site orandia.ca, O-R-A-N-D-I-A.ca, il y a une section pour réserver vos places, soit que vous ayez, si vous m'écoutez au Québec, ben vous allez réserver votre place ici, c'est au cégep de Maisonneuve à Montréal, tout près du stade olympique.
Ah.
Qui était sous les plans de Roger Taillibert, un Français.
Oui.
Ben oui, alors, et ceux qui seront à distance pour nous suivre par Internet, vous recevrez la veille un mot de passe qui va vous permettre d'entrer dans une section privée d'une diffusion streaming, qu'on appelle, je ne sais pas en français.
Non, streaming aussi, on dit ça comme ça aussi.
Oui, bon, alors ça va être le congrès continuel. Donc, le samedi à 1h, ça débute, ça se termine le samedi soir à 22h30, ça reprend le dimanche à 1h pour se terminer vers 17h. Et le soir du samedi soir, étant donné qu'on est dans le même fuseau horaire que les Américains, on reçoit nos Américains tout ensemble le samedi soir. Mais pour vous, en France, ça va être des heures impossibles. Ça va être à 1h du matin jusqu'à 4h30 du matin. Mais le congrès, puisque vous aurez votre passe pour la fin de semaine, va vous permettre de revoir les reprises de ce congrès-là sur Internet en privé. Ça va rester privé parce que j'amène les invités, les conférenciers, à la limite. D'ailleurs, je prépare des questions pour Bob, là. Parce que Bob, depuis le temps que vous êtes maintenant lancé dans l'insolite, le phénomène OVNI, tout ça, c'est certain, Bob, écoute, je me souviens des émissions des débuts,
où
Bob posait des questions pour apprendre des choses. Aujourd'hui, il a déjà une opinion. C'est assez évident qu'il doit savoir qu'il y a des gens qui disent des choses, jusqu'à quel point c'est vérifiable scientifiquement. Vous laissez honorablement la parole, la liberté d'expression, mais c'est excellent. Mais est-ce que Bob a une opinion derrière tout ça? Alors au congrès, Bob, ça va être ton tour.
Ah, je vais passer sur le grill, en fait, c'est ça. Hein?
Il y a des postes de radio aussi qui t'attendent.
Ouais.
Mais c'est jamais malfaisant. Hein. C'est toujours pour essayer de vraiment comprendre. Parce que le cheminement que tu as fait, on se tutoie, il n'y a pas de problème.
Bien sûr, vas-y, Richard.
Bon, alors écoute, le cheminement que tu as fait là, la radio pendant des années, une trentaine d'années, donc professionnel de communication, maintenant dans un domaine extrêmement périlleux, regardé avec des gros yeux par les les grands médias qui n'osent pas toucher, traiter de ces sujets-là. Toi, tu y vas à fond de train.
Parce que je trouve que ces grands médias ne font pas leur boulot et que ce sont des vrais sujets à part entière. C'est ce que j'ai voulu faire, tu sais, Richard, prendre des sujets qui sont moqués ici ou là ou qui n'osent pas être abordés parce que dit complotiste, dit difficile, dit improbable parce que ils mettent en jeu des économies, puisque souvent les acteurs, par exemple quand je parle d'agroalimentaire, bien sont les premiers clients de ces chaînes de radio ou de télé. Donc voilà, moi j'ai voulu te faire ces sujets des vrais sujets, c'est pour ça que je vais dessus. Et alors j'y vais à fond parce que je trouve que c'est honteux pour un journaliste aujourd'hui, pour un des organes de presse, de ne pas y aller. Je trouve ça incroyable. Mais tu sais, c'est hallucinant parce que dès que je regarde sur le net, je suis aujourd'hui assimilé à des sites alternatifs. On me met près des gens d'extrême droite, près des gens d'extrême gauche. On me met à toutes les extrêmes. C'est-à-dire que c'est juste hallucinant. Et donc, tous les cas, moi, je sais ce que je fais. Donc, je me regarde bien dans la glace. Et je sais que ces sujets, quand je reçois, comme hier, le professeur Jean-Noël Fabiani, qui est juste un ponte de la cardiologie, qui... nous a offert une greffe incroyable de ce cœur artificiel qui était une première mondiale pendant 2 mois et demi. Un homme a vécu avec un cœur mécanique. J'ai aucun problème à répondre à toutes les attaques, tu sais. Je suis droit dans mes bottes.
Oui. Aux États-Unis, il y a George Noury, il y a Arthur Bell.
Bien sûr, Art Bell, oui.
Puis en France, ben, on a Rob Bell, Lanka. Mm-hmm. Oui, mais là-bas, ils sont pas... décriés, on entend parler même dans d'autres médias parce que ils amènent d'informations. Regarde, écoute, je pense que tu avais reçu un invité sur le massacre qu'il y avait centrafricaine.
Oui, je me souviens, c'était 2 mois avant que les masses médias n'en parlent.
Et voilà, ça c'était chez Bob en premier. Alors il faut réaliser que oui, il faut avoir le courage de fouiller dans des dossiers que les autres ont peur, puis finalement, ben, c'est comme ça qu'on fait avancer la société. C'est pas en répétant les mêmes affaires tout le temps. Alors, Bob, pour le Congrès, si on revient 2 secondes sur le sujet,
ouais.
C'est donc Bob qui arrive au Québec le mercredi soir. Il va faire la Ville de Québec jeudi, vendredi, la Ville de Montréal, les médias. Samedi, dimanche, on est dans le Congrès.
Ouais.
Et tu retournes au poste en France dès le lundi, donc il n'y aura pas une absence très très prolongée de Bob à l'émission. Là.
Non, mais on va faire ce qu'on a décidé de faire, c'est bien sûr de faire des ponts avec Yves Carra qui me remplacera durant ce séjour. Donc on va pouvoir faire des annoncer, relayer l'information, dire ce qui se passe. Je ferai des points quotidiens avec mes petits camarades de jeu ici. Et puis on va ramener du matériel, bien sûr, de ce congrès pour qu'on puisse faire quelque chose. Sur notre site hein, et diffuser l'information également. Donc on sera un lien direct, on va être relié perpétuellement. La France et le Canada vont être encore plus proches durant ces quelques jours de mon voyage au Québec et à Montréal. Il y a un truc qu'il faut quand même que tu saches, il faut absolument que je mange de la poutine ou poutine. Il y a un truc que...
On va t'amener au restaurant à Montréal qui est le plus célèbre et le plus coté sur la poutine. Tout ce que tu peux imaginer qui pourrait se manger avec des frites.
Oui.
Je ne sais pas si vous appelez ça des frites, là, des patates frites.
Oui, c'est ça, oui, des frites, oui.
Bon, alors, il y a de tout, du homard, aussi bien que la sauce spaghetti, avec toujours le Saint-Éternel, crotte de fromage. Alors, on mange des crottes de fromage blanc avec des patates. Ça a l'air très étrange comme menu, mais c'est, en tout cas, c'est bien prisé ici au Québec. Puis, curieusement, le nom poutine s'était déjà donné au moins 20 ans avant que l'autre en Russie.
Le prennent. Enfin,
oui, oui. Non, ça ne revient pas de lui. Non, c'est ça, il ne faut pas se mélanger. Ça porte le même nom. Ah oui, ah, ben, c'est sûr. Bob, aucun problème. On t'amène à Poutineville.
Bon, Poutineville. Alors, j'irai à Poutineville. Et puis, je disais tout à l'heure, parce que tu sais qu'à chaque fois, j'aime bien me moquer un petit peu de l'orignal, c'est ça?
Et oui, il y a un orignal qui t'attend, là, quelque part, là, prendre des photos avec l'orignal. Ah, oui. Tu sais que les orignaux ont une barbiche, hein, en dessous.
Oui, comme moi, comme moi. Comme suis un peu le père spirituel de l'Orignal, moi, tu le sais, Richard. Donc. Non, mais je disais tout à l'heure que je vais être attendu au tournant par les Québécois et les Montréalais, mais dans tous les cas, je disais que qui aime bien châtie bien. J'ai vraiment hâte de vous voir parce que je pense qu'on va passer quelques jours ensemble et ça va être extraordinaire. Je pense que et puis ce congrès, quand j'ai regardé les invités, vraiment, sont fantastiques. Donc c'est vraiment un événement et je le dis, j'en parle tous les jours, hein, tu sais, sur l'antenne.
Et
c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, on n'a pas la chance d'avoir ces ufologues américains. Bon, j'ai reçu Leslie Ken la dernière fois, mais qui est une journaliste, qui n'est pas une ufologue, elle me l'a bien répété. Mais là, ce sont vraiment des gens qu'on a l'habitude de voir, effectivement, dans Alien Theory, dans les émissions américaines qu'on a en France. Mais là, on les aura en chair et en os, en tout cas en lien direct. On pourra les voir, on pourra leur parler, poser des questions et puis les écouter, ce sera fantastique.
Oui, d'ailleurs, j'ai prévu du temps pour que tu puisses les interviewer dans la loge en arrière, là. Vous installer comme un mini-studio si vous voulez faire des entrevues avec ces gens-là. Ouais. Je sais que nous, on aura une traduction simultanée pour le congrès ainsi que pour Internet.
D'accord.
Je vous donne le secret, c'est que si vous ne comprenez pas bien l'anglais, quand ça va être transmis par Internet ou après, en reprise, vous choisirez le canal droite-gauche.
Ah, génial.
Dans le mot « gauche », il y a un « G ». Dans le mot gauche, il y a un G, donc ça va être le anglais, parce que dans anglais, il y a un G.
D'accord.
Dans le canal de gauche, vous aurez la version anglaise originale des Américains, et la traduction française qui sera faite par Jimmy Stiles va être sur le canal de droite, comme il y a un R, comme dans le mot français.
Ouais.
Donc c'est facile à souvenir, à droite c'est en français, à gauche c'est en anglais.
D'accord.
Et de cette façon-là, les gens comprendront. C'est simultané. Autrement dit, c'est pas ils parlent en anglais, ils traduisent en français. Non, non, c'est en même temps.
Est-ce que ce congrès est attendu, Richard? Est-ce que les gens en parlent pas mal? Est-ce que tu sens qu'il y a un vrai engouement de ce côté-là? Est-ce que tu sens d'ailleurs que l'ufologie revient en force?
Oui. À ce niveau-là, oui. Je peux dire qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'organismes ici ufologiques, para-ufologiques, qui vont être présents lors de la table ronde du dimanche sur la fin d'après-midi. On termine le congrès. Ben, si je te fais un rapide survol du congrès, on débute avec Bleuette Viau qui nous amène dans l'histoire secrète des civilisations, son dernier livre. Donc, aux origines, y avait-il des civilisations extraterrestres qui visitaient l'humanité? Ensuite, on s'en va dans les groupes ufologiques. Alors, Gilles Milot, le président de l'AQU, l'Association québécoise ufologique, suivra Christian Comtesse, organisateur des repas ufologiques. Lui, ça va être par Internet, on va le rejoindre par Skype. Ensuite, on a les ufologues qui sont auteurs. Don Dondery, qui a été professeur à l'Université McGill pendant 47 ans en psychologie.
Ah oui.
Il était l'un des pères fondateurs du groupement UFO Québec dans les années 70-80. Il va être avec nous. Il vient de publier un livre, d'ailleurs, qui s'intitule « OVNI extraterrestre et enlèvement alienigène ». Un scientifique se penche sur la preuve.
Ouais.
Et il parle français, monsieur, même s'il était professeur dans une université anglophone. Ensuite, Yann Vadney, le directeur du groupe Garpin, le groupe de recherche et d'études sur les pans, les phénomènes aériens non identifiés.
Ouais.
Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Enquêter sur les ovnis pour comprendre notre réalité, méthode, paradigme et champ de l'ufologie
».
Ensuite, Marc Saint-Germain, oh ça c'est une bombe. Marc Saint-Germain qui était casque bleu, militaire canadien, envoyé en Yougoslavie et ailleurs. Il revient avec un livre qui s'intitule « Après avoir publié un livre, L'ère du chaos, l'histoire secrète de l'humanité en 2008 », maintenant il vient de publier au mois de mai « Les gardiens du silence, évidence et l'implication du gouvernement américain dans la censure sur les ovnis et la présence extraterrestre ». Je pense que c'est un bon potentiel de futurs invités, ça, hein, Bob?
C'est plus qu'un beau potentiel, je dirais. Ce qui est fabuleux, c'est que chacun va amener sa pierre à l'édifice, Richard. Ils ont tous des points de vue différents, des spécialités différentes.
Exactement. Et on parle des temps très, très anciens reculés avec Bleuette Viau. Et on s'en va jusqu'à aujourd'hui. Après, dans la soirée du samedi, c'est les Américains, l'ufologie américaine avec Craig Campopasso, qui lui, on va le rejoindre en Californie, il est producteur de cinéma, et il produit un film qui s'appelle Stranger at the Pentagon.
Ah oui.
L'étranger au Pentagone. C'est une histoire qui remonte aux années 50, soit disant qu'à l'époque de Eisenhower, il y avait eu un émissaire, un ambassadeur des extraterrestres qui s'appelait Valiantor, qui est allé là à plusieurs reprises, et puis il y avait pas besoin qu'on lui ouvre les portes. Il les ouvrait lui-même, et puis les militaires, ils pouvaient pas agir. Quand il arrivait, il devenait comme paralysé. Il passait, il rentrait au Salon Oval, puis il rencontrait Eisenhower. D'ailleurs, Eisenhower a prévenu les gens, son dernier discours, avant de quitter la Maison-Blanche, en disant, attention, mesdames et messieurs, le complexe militaro-industriel risque de devenir la bête noire de notre pays. Méfiez-vous bien plus des ennemis qui sont à l'intérieur que des ennemis que vous pensez à l'extérieur du pays. Kennedy a répété à peu près les mêmes choses, d'ailleurs. On recevra Linda Moulton Hall. C'était une journaliste en Californie qui, un jour, a été invitée à aller faire un reportage sur les mutilations de bétail dans l'Ouest américain. Tu sais, les vaches... Et c'est inexplicable parce que c'est des incisions, c'est des opérations chirurgicales de très, très haut niveau. Et Linda Moulton Hall ne connaissait absolument rien du phénomène OVNI, en faisant son travail d'enquête pour le journalisme, est arrivé à rencontrer des scientifiques et des gens sérieux qui lui disaient, la seule explication, c'est des extraterrestres. Écoute, un bœuf qui pèse très, très, très lourd, il a les épaules, les hanches cassées. C'est parce qu'il est tombé d'en haut, sur le terrain. Pour être tombé du ciel, un bœuf ne saute pas assez haut pour se casser les hanches, puis tout ça. Alors, ils se sont aperçus que... il y avait eu quelque chose d'étrange qui n'est pas explicable d'une manière naturelle. Et là, Linda s'est ouverte au monde de l'ufologie. Et là, elle a poussé pendant des années. Alors, ça promet d'être très, très intéressant, sa participation. Et cette année, au mois de janvier, elle participait à un congrès américain en ufologie aux États-Unis. Et elle est allée déclarer des choses très intéressantes dans le domaine de la spiritualité. Alors, je l'attends parce que moi, je suis un ésotériste. Et la démarche spirituelle de l'invisible m'attire énormément. C'est pas pour en faire une religion, mais c'est pour se dire qu'il n'y a pas seulement les choses qu'on voit avec les yeux, puis qu'on pèse ou qu'on mesure au laboratoire qui a de l'importance. Il y a des choses qui sont dans le monde nouménal avant d'être dans le monde phénoménal. Et Linda Moulton Hall, je l'attends. Kerry Lynn Cassidy, qui est à la tête du projet Camelot. Alors, vous m'avez déjà entendu parler, On la voit souvent dans les postes américains aussi, dans les reportages des émissions américaines. Alors, Caroline Cassidy va être avec nous en personne, encore une autre bonne intervenante dans le domaine ufologique. Richard Dolan, auteur historien, lui aussi, une sommité dans le domaine. Et l'exopolitique présentée par Alfred Lambremont, Weber. Et le dimanche après-midi, on rencontre des contactés francophones. On revient dans l'univers francophone avec Louise Dionne, qui en revenant de New York a un missing time, c'est-à-dire à perdre la notion du temps. Il lui manque 3 heures dans sa vie parce qu'à un moment donné, elle fait des rencontres étranges. Elle voit un vaisseau arriver dans le ciel avec son copain de l'époque. Tout s'arrête dans sa Cadillac, il n'y a plus rien qui fonctionne. On est tout près de la région où il y a eu la fameuse rencontre de Betty Barney Hill avec le phénomène extraterrestre au début des années 60. Elle, c'est arrivé au début des années 80. Et ensuite, elle est amenée quelque part. Et là, sous hypnose, elle régresse, elle revient dans cette époque-là. À ce moment-là, elle retrouve dans sa mémoire cachée, dans son subconscient, des éléments dont on va entendre parler ce fameux dimanche. Ensuite, Myriam Delicado, contactée, qui est dans l'Ouest canadien, à Vancouver. On va la rejoindre par Skype. Nancy et Jack Malacaria, qui sont au Massachusetts, tout près de Boston. Eux aussi ont été contactés, les deux. Et moi, c'est très étrange parce que Jack Malacaria, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans d'autres circonstances ufologiques, sans que je ne le connaisse. On s'est parlé au téléphone, puis là, j'ai dit, écoute, t'as du barbe. Toutes les photos de lui sur Internet, il n'y a pas de barbe. Moi, où je l'avais rencontré, il y avait une barbichette. Et là, on a mis Skype en marche, on s'est vu, on s'est reconnu. Alors, ce sont des expériences très particulières dont on va parler dimanche. Et ensuite, on termine tout le congrès avec une table ronde. Plusieurs invités ufologues qui ont écrit des livres, qui font partie de groupements ufologiques, vont répondre à des grandes questions comme « L'ufologie a-t-elle un avenir? D'après vous, quel serait le meilleur moyen ou la meilleure méthode pour que des extraterrestres ou nos autorités puissent révéler leur présence? » Parce qu'on sait bien, ils sont là, puis il se passe des choses, puis le gouvernement nous cache tout ça. vous, vous en êtes conscient aussi. Vous avez reçu des militaires, vous avez reçu des ufologues compétents, puis c'est clair. Et on termine avec Bob et Richard Glenn, à la fin, conclusion, et mon Bob. Le samedi, je vais présenter, je vais être interviewé au début, puis à la fin, ben, je vais te redemander ton impression sur la fin de semaine, ton voyage au Québec, puis les Québécoises. Et après, je te laisse partir, tu verras, on te prépare une surprise de classe.
Bon, ben, très bien.
Comme ça.
Non, mais je sais que ça va être un moment fantastique. Non, mais c'est surtout, en plus, tu sais, je le dis souvent, dès que j'ai un invité, je dis, vous savez que mon deuxième pays en nombre d'abonnés, c'est le Canada, le Québec, et je suis ravi parce que beaucoup me disent, je vais vous voir, on va se rencontrer, on va se serrer la main, on va se parler, etc. Et je suis ravi parce que c'est vrai que c'est la radio, c'est un média fantastique, tu le sais, et il y a quelque chose qui est frustrant, c'est qu'on ne rencontre pas nos auditeurs, pas souvent. J'en profite d'ailleurs pour saluer Nathan et Yolaine qui sont venus cette semaine nous rencontrer dans le studio, ils viennent nous voir. J'organise de temps en temps des visites ici ou là du Père-Lachaise, du Paris ésotérique, donc ça me permet d'avoir le vrai pouls, en fait, de la société, le vrai ressenti de nos auditeurs. Alors si c'est côté français, cette fois-ci je vais avoir le ressenti du côté des Québécois, et c'est important de savoir un petit peu ce qui plaît, si on est dans le vrai, si on n'est pas dans le vrai, ce que les gens préfèrent, etc. Donc c'est pour moi un vrai bonheur. Tu sais bien que déjà la saison dernière, j'avais envie de venir faire des choses au Québec. Bon, c'était un peu compliqué. Là, cette année, ça se met en place. Et vraiment, merci de m'avoir invité, puisque c'était un vrai bonheur. Et je pense que ça va être un vrai beau moment de partage. Et puis surtout, de voir que ce sujet ufologique, finalement, il n'est pas canadien, il n'est pas américain, il n'est pas français, il est mondial.
Eh oui. Et Bob, ton côté humain transparaît dans tes émissions. Et le fait de faire un bain de foule ou de rencontrer le public, tu sais, il y a beaucoup d'animateurs à la radio, mais il y en a très peu qui vont, après l'heure de travail, poinçonner, s'en aller, c'est fini, la job est faite, qui ont fait leur émission, puis c'est tout. Mais des gens qui sont impliqués avec le public, c'est tellement important.
Ouais, moi j'ai
ça,
toujours...
On le ressent dans ton discours, on le ressent dans ta communication avec les invités et ta proximité avec les intérêts du public aussi, c'est ça. C'est indispensable, mais c'est merveilleux tout ça. Moi je suis tellement content, pas pour rien, quand j'ai entendu Bob il y a 2 ans, dans les premières semaines, je me suis dit, le gars, il l'a. Puis vraiment, j'ai hâte de voir où il va s'en aller. Et en te regardant aller de semaine en semaine, de mois en mois, j'ai pris, je pense, 5 mois avant d'entrer en contact avec vous autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont des aventuriers de l'insolite, tu sais, puis c'est payant, ça continue, puis si c'est pas payant, on lâche tout. Toi, tu as pris des grands risques, et je pense que tu es gagnant. Parce que l'aventure continue et elle ne peut plus s'arrêter. Ça va toujours continuer, il y aura toujours de plus en plus de matériel. Et moi, j'ai eu cette impression-là ce matin, tu vas être rappelé par des stations... Et irais-tu dans des stations officielles? Ça, c'est une des questions que je me préparais à poser à Bob au Congrès. Retournerais-tu dans des stations des médias conventionnels?
Honnêtement, je crois pas. Je ne crois pas parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une liberté dans cette station qui est la mienne, mais qui est aussi avant tout celle des abonnés, parce que c'est grâce à eux qu'elle existe. Et aujourd'hui, pas avoir de pub, pas avoir d'horaire, pas avoir de rédacteur en chef autre que... Nous, on est une rédaction collégiale, tu vois, c'est-à-dire qu'on se parle, on a un sujet, machin, tout ça. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à retourner sur une antenne classique. Aujourd'hui, on voit que le site internet, il explose littéralement, on fait des millions de pages vues chaque mois, etc. On voit que notre Facebook, dès qu'on met une info, c'est partagé, etc. Donc, certes, on n'est pas sorti de l'auberge financière, parce que c'est compliqué, parce que ça vaut de l'argent, parce que aujourd'hui, tu sais ce que c'est, dès qu'on veut, puis moi je suis un, tu sais, c'est ce que je disais il y a 10 jours, j'ai fait une émission face aux abonnés, rien ne m'obligeait de proposer d'autres émissions par d'autres journalistes, tu vois ce que je veux dire, et je l'ai fait pour le même prix, et les gens écoutent ces émissions, et voilà. Donc moi l'idée, c'est de faire une antenne totalement consacrée à tout cela, avec et puis de faire des documentaires exprès pour le web, d'aller sur le terrain, d'aller faire des reportages sur des lieux vers des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc tu vois, il y a tout un truc. Donc l'équilibre, il est loin d'être acquis. Puis tu sais, une société, c'est au moins 3-4 ans avant qu'elle soit un peu pérenne. Donc les premières années sont compliquées, mais on va y arriver. Puis surtout, j'ai une vraie liberté. Alors Maintenant, retourner sur une antenne classique, de toute façon, je ne pense pas que les médias français aient les couilles de me laisser parler, parce que quand j'aborde l'agroalimentaire, quand je suis l'un des rares à parler pratiquement quotidiennement de Fukushima et du désastre écologique que ça se fait dans le monde entier, quand je parle de la médecine alternative, les gens ne veulent pas entendre ça. Enfin, le public va entendre ça, mais les dirigeants ne veulent pas entendre ça, parce que ça les mettrait en défaut, parce qu'ils ont toujours peur du procès, de la merde. Moi je remue la merde, hein, tu sais, Richard. Donc, et quand tu remues la merde, ça sent pas forcément bon, il y en a qui se bouchent le nez.
C'est notre proverbe québécois, ça. Plus tu branches la merde, plus ça pue.
Et ben voilà. Et en fait, les patrons de chaîne ne veulent pas aujourd'hui. Non, puis tu sais, on a eu des problèmes ici avec quelques sectes, l'ordre du Temple solaire, etc., qui a en fait stigmatisé tous ces sujets. Oui. Maintenant, quand on parle d'OVNI, c'est des sectes. On a eu Raël qui a fait beaucoup de mal. Quand on parle de j'ai fait la scientologie avec un scientologue ici, c'était compliqué, tu vois, de se dire il y a des gens qui adhèrent, d'autres qui adhèrent pas. Il y a, dans des pays, c'est une église, dans d'autres pas. Enfin, c'est compliqué. Et j'y vais, tu vois, sur ces sujets, mais les médias classiques veulent pas y aller. Ils préfèrent nous parler quotidiennement de Monsieur Gaillet, alias François Hollande, qui sort avec son scooter pour aller voir sa maîtresse, ou du nouveau Premier ministre, qui de toute façon fait une politique sur laquelle on reviendra dans un an, parce que de toute façon, tout est fait à la va-vite. Tu comprends ce que je veux dire? Ou de Nicolas Sarkozy, donc voilà. Donc,
Ben oui, mais Sarkozy va revenir. Ouais. En tout cas, ça c'est mon opinion de loin. Là.
Ah ben, de toute façon, il y a un sondage qui est paru hier qui disait que si jamais il y avait une élection présidentielle ce week-end, Hollande n'arriverait même pas au deuxième tour et c'est Sarkozy qui repasserait. Mais tu sais, le français, il a quelque chose qui le caractérise. C'est que ce qui se pense aujourd'hui, il ne le pense pas demain. Donc tu vois, donc là...
Oh monsieur, on est pas mal, beaucoup français, nous autres aussi, ici au Québec. C'est incroyable, voilà. Les élections qu'on vient d'avoir ont renversé complètement la vapeur. Mmh. On est passé d'un parti minoritaire à un parti de l'opposition majoritaire. Mmh. Et ça, c'était presque imprévisible, on pourrait dire.
Ouais,
ben c'est ça. Alors Bob, juste pour terminer pour le congrès, c'est en allant sur le site orandia.ca. Ouais. Simplement, vous avez toute l'information, vous avez tous les pedigrees des invités, l'horaire, le programme de la fin de semaine. orandia.ca.
Alors,
on tourne la page maintenant.
Voilà,
on s'en va maintenant dans l'ufologie du 21e siècle, si on peut aborder ce sens dans ce sens-là.
Ouais.
L'ufologie du 21e siècle, je la propose d'abord en parlant des contactés, parce que j'ai déjà expliqué qu'il y avait trois types de contactés. Contactés, ça veut dire ceux qui rencontrent des êtres extraterrestres, soit qui sont amenés à bord d'OVNI, on appelle ça des abductés. En français, on pourrait traduire ça par des enlèvements, mais j'aime mieux encore le terme des ravissements. Oui, parce qu'il y a un ravisseur. C'est quelqu'un qui enlève un diamant, un ravisseur, c'est un voleur. Mais c'est un voleur qui peut aussi provoquer un ravissement. Puis le ravissement, quand on sait que les saints, dans des extases, avaient des ravissements, même ils faisaient des lévitations. Alors, les ravisseurs ne sont pas toujours nécessairement négatifs. Et dans les contactés, il y a donc les manipulés, les programmés et puis les missionnés. Alors, les manipuler comme une marionnette, soit par en dessous, une marionnette à gaine, ou par-dessus, une marionnette à corde. Ensuite, les programmer un peu comme un programme, deviennent comme des robots. Ils fonctionnent sans trop savoir pourquoi. Ils ne raisonnent pas, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Puis c'est de leur plan, c'est de leur programme. Ils ont une programmation. Ou alors, ils sont missionnés. Alors là, ils se pensent élus, ils se pensent missionnés par un devoir à accomplir envers et contre tous. C'est typique des contactés. Ils tombent dans une de ces trois branches-là. Mais pour tous et chacun, si vous entendez parler de contactés, simplement pour vous donner un petit aperçu de ce qui peut se passer dans la tête, dans la physiologie des gens, on va dire qu'ils ont des effets physiques, psychologiques et spirituels.
Ouais.
Ça te convient là, qu'on touche à cet aspect-là?
Ah ben j'adore! J'adore, oui, bon. Complètement.
Alors, les contacter physiquement, les premières choses qu'on remarque, ils vont avoir des cicatrices ou des égratignures. Ils vont avoir comme des prélèvements de peau. Ils vont avoir des. Oui, c'est très étrange, mais souvent ça se produit la nuit, quand ils sont couchés la nuit. Ils sont enlevés, ils sont amenés en quelque part, ou alors il y a des êtres qui rentrent dans leur chambre, qui leur font des choses, ils sentent qu'il y a une présence, mais ils sentent qu'ils ne peuvent pas bouger. Mmh. Pour faire attention, il existe ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que si tu es couché sur le dos, un peu comme un alligator, là, tu le vires à l'envers, puis il vient comme paralysé, là, il ne bouge plus. Bon, ben, il y a des gens qui ont à peu près certaines réactions-là. C'est que dans certaines positions du corps sur le lit, ils peuvent tomber dans un état catatonique, un état de paralysie. Alors, ils vont se retrouver le lendemain avec des marques sur le corps, en se disant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bougé, j'étais dans mon lit. Ils vont avoir des courbatures, des élongations. Ils vont se demander, comme si c'était tiraillé, c'était malmené durant la nuit, sans se souvenir de rien, là. Ils ont des maux de tête, ils ont des nausées. Ça fait partie des manifestations physiques de ceux qui ont eu un contact avec des êtres. Puis la nature des êtres, ben c'est un peu comme les fameuses poupées dont je parlais tantôt, les poupées russes, là, une dans l'autre. Là. Les êtres, ben il faut pas toutes les mettre dans la même poupée. Là, il y a différents niveaux. C'est pas pour rien qu'il y en a qui vont parler des êtres de lumière, qui sont un état évanescent, qu'on dira supérieur, puis les autres qui sont comme les petits gris, les reptiliens, les éléments. Les élémentaux, on se retrouve à une autre échelle. Là. Il y a différents niveaux, on va te parler de ça au congrès. Mais les effets physiques, c'est ceux-là qui sont les plus remarquables. On dira même que souvent, ils ont, après ces expériences-là, un intérêt sexuel accru.
Ah bon?
Oui, ça a été remarqué par le docteur Richard Boylan, qui lui a fait des analyses sur les contactés, puis il s'est aperçu que oui, ils ont ça. Ils ont souvent aussi un appétit démesuré, et souvent un appétit pour un objet comme du chocolat.
Alors, bon, ils vont. Tu sais, Richard, oui. Je pense qu'avec Mathieu, on a dû être abducté, parce que autant moi j'ai mon appétit sexuel qui est développé, autant Mathieu a un appétit développé pour le chocolat. Donc, il y a autant moi,
je pense. Parfois même les deux. Alors,
parfois même les deux. Donc, je pense qu'on a été contactés, nous. Hein.
Ah oui, hein. Et vous savez que vous allez demeurer au moins une couple de nuits en face du Mont Saint-Hilaire, et le Mont Saint-Hilaire. Où je demeure, sur la rive sud de Montréal, est une reproduction à peu près du fameux Devil's Tower, la tour du diable dans le film Rencontre du troisième type au Wyoming.
Ah ouais, génial.
Et le Mont Saint-Hilaire s'appelait chez les Indiens autrefois, d'ailleurs je vous amènerai tout près ici un endroit où les Indiens sont installés, et ça s'appelait Wigwam Allen 6. Wigwam Allen 6, en Abenaki, ça veut dire wigwam, une maison, un wigwam. Vous avez déjà entendu le mot, j'imagine, wigwam comme un tipi.
Ouais.
Un wigwam, ça veut dire maison. Allen 6, de ceux qui viennent du ciel.
D'accord, la maison de ceux qui viennent du ciel.
Ouais. Et là, vous allez être au pied de cette montagne-là. On n'aura pas le temps de monter parce que ça prend une couple d'heures pour monter jusqu'en haut, mais quand même, ça va vous donner un beau point de vue et vous ne serez pas tellement loin de chez moi, donc je pourrais vous prendre, vous piloter pour les postes de radio et tout ça. Et alors, le groupement UFO Québec dont je parlais tantôt, qu'on a un des fondateurs, Don Dondery, qui a été professeur à l'Université McGill, le groupement UFO Québec avait répertorié pendant une dizaine d'années des observations des gens au Québec qui disaient « Ah, j'ai vu un ovni passer par ici, il s'en allait là-bas. » L'autre, il disait « Il arrivait de là-bas, puis il s'en va par là-bas. » On prolonge les lignes d'observation. On fait ce qu'ils appellent un calcul orthoténique, c'est-à-dire un peu comme Aimé Michel faisait en France, les prolongements des passages d'ovnis. Bon, eh bien, ils se focalisent tous au Québec. Ça a été prouvé par le groupement UFO Québec, qui était, comme vous l'avez vu tantôt, un professeur d'université.
Ouais.
C'est tous des gens professionnels qui étaient dans le mouvement UFO Québec, ou presque. Et alors, la focalisation de ces passages d'OVNI par le prolongement des observations pointe sur le Mont-Saint-Hilaire.
Ah oui.
Alors, il y a beaucoup d'observations au Mont-Saint-Hilaire régulièrement. Et tout ce que je vous souhaite, c'est qu'en rentrant un bonsoir, vous soyez témoin vous-même. Parce que j'ai choisi une chambre d'hôtel, il n'y aura pas d'arbres devant, vous allez avoir la vue parfaite de la montagne, et en pleine nuit, s'il y a des lumières qui circulent dans le ciel, ce ne sera pas des trucages, vous serez témoin vraiment de quelque chose. Je vous amène, en tout cas, au point le plus chaud au Québec en ufologie.
D'accord. Oh ben, y a bien, tu sais, quelqu'un en France qui veut dire fake. Comme d'habitude, tu sais, tout est fake ici, donc voilà. Mais de toute façon...
Là, moi, je me dis que s'il fallait que Bob, avec Mathieu, vous retourniez en France en disant, écoutez, ce qu'on a vu, parce qu'il ne faut pas que ce soit une lumière qui soit sur la montagne, ça peut être n'importe quel plaisantin qui arrive avec un spot quelque chose. Non,
bien sûr.
À plusieurs dizaines, centaines de mètres au-dessus de la montagne, et qu'à un moment donné, whoop, il se déplace très rapidement, whoop, il vient de repartir dans l'autre direction, où il échappe, où il laisse tomber un œuf de lumière, ce qui est arrivé régulièrement. J'en ai été témoin moi-même, avec d'autres, c'est allé dans les journaux locaux, etc., parce que c'est troublant quand on voit des choses qu'on ne peut expliquer. Aucun bruit, absolument silence et des phénomènes aériens de nuit. En général, ils font ça de nuit. Le jour, je ne sais pas, s'ils passent trop vite pour que nos yeux puissent les voir. Je crois que des fois, des gens prennent des photos à très haute vitesse, puis sur la photo, ils voient un ovni, et ils disent « j'ai rien vu ». Ben non, c'est parce qu'ils passaient trop vite, tes yeux n'ont pas le temps de le voir. On voit, nos yeux voient 24 images secondes. Alors, quand tu es rendu à 70 images secondes, tu n'as rien vu.
Mais c'est pour ça que souvent, c'est après coup qu'une photo a capté quelque chose ou une vidéo a capté quelque chose quand on passe au ralenti. Juste comme ça, on arrive à voir sur la bande des choses qu'on n'avait pas vues à l'œil nu. Hein.
Exactement. Alors, je continue les effets décontactés. On a vu les effets physiques. Hein? On a vu sexuels, des égratignures et des plaies étranges. Bon, les effets psychologiques. Alors, les effets psychologiques, en général, des gens... N'oubliez pas, là, c'est des contactés qui ne se souviennent pas de l'événement. Là. Ils ont simplement un souvenir dans leur subconscient qui n'est pas venu en surface. Si c'est venu en surface, ben là, il n'y a pas de problème. On sait qu'ils sont contactés, ils racontent leur aventure, puis c'est clair. Mais les gens qui ont été contactés, mais ça a été fait de façon subtile pour, disons, ne pas les troubler, mais les gens reviennent malgré tout avec un intérêt étrange pour tout ce qui est insolite, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est marginal. Des sujets comme tu traites dans les émissions, c'est déjà un signe d'un intérêt pour quelque chose de « outside », en dehors de la norme, en dehors du... Et pourquoi? Parce que dans ton être, il y a quelque chose qui a vécu quelque chose d'anormal et tu l'as refoulé dans ton subconscient. Il y a des gens qui... Moi, j'ai reçu Bob Hopkins ici à la maison à Saint-Hilaire deux fois plusieurs jours. Et Bob Hopkins me disait, les contactés, des fois, ils développent des obsessions maladives sur des objets qui n'auraient pas de sens pour d'autres. Des fois, ça peut être une sculpture, ça peut être... même, tu sais, on le voit dans le film Rencontre du troisième type, le gars, il monte une montagne avec de la patate pilée, là.
Ouais.
Tu sais, c'est comme une obsession là, pour des objets. Alors, en fait, c'est parce que c'est dans son subconscient. Il ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y a un attrait pour des choses comme ça. Évidemment, ils ont une empathie très instantanée avec d'autres contactés. Et ça, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui les avait marqués et les autres, les gens non contactés, ne le réalisent pas, mais entre eux, ils se reconnaissent sans savoir pourquoi. Tu sais, ils ont comme une attirance à savoir comme ça, c'est comme ça. J'oserais pas aller trop loin en disant que, mettons, des... je sais pas si je me risque, là, mais des homosexuels, on me dit qu'ils se reconnaissent entre eux.
Oui, oui, parce que c'est une communauté, parce qu'il y a des traits, peut-être, parce que, mais c'est vrai que moi j'ai plein d'amis homo, ils me disent, on sait quand un homme est homo, hein, donc il y a aucun problème. Donc.
Ben oui, c'est ça. C'est ça que je pense.
Alors, en même temps, c'est pratique, hein. C'est, au moins tu ne trompes pas, quoi. Donc voilà.
Oui, c'est vrai. Alors, ils ont aussi des contactés qui sont dans le subconscient. Ils ont été contactés. Ils ont des rêves, des fois des cauchemars. Ouais. S'ils sont jeunes, ben il faut que les parents soient très compréhensifs pour ne pas dire, écoute, arrête, là, on va t'amener chez le psychologue, là, t'as des problèmes, là, parce que tu passes ton temps la nuit à faire des cauchemars, ben tout ça. Oui, mais il y a quelque chose derrière. Et après, donc, les effets physiques, psychologiques, il y a les effets spirituels. Et dans les effets spirituels, en général, c'est positif. Les gens ont une ouverture d'esprit, un amour de la nature, un amour de tout ce qui vit. Ils sont proches des animaux, des plantes. Et ils sont pas méchants, ils sont pas agressifs, ils sont pas, comment est-ce que je peux dire, guerriers. Ils sont plutôt pacifiques. C'est des gens qui vont fuir les autres qui sont brutaux. Ils vont aimer le silence, ils vont aimer la quiétude, ils vont observer de manière, la nature. Là, ils vont avoir... un petit peu un côté solitaire, parce qu'eux, ils savent qu'ils sont mis un peu en dehors de la norme de tout le monde. C'est sûr que pour vivre avec ces gens-là, c'est pas facile de faire sortir du subconscient leur expérience pour que ça devienne à l'extérieur et qu'ils puissent en parler, parce que malheureusement, la plupart, quand ils commencent à découvrir ce qu'ils ont vécu, surtout ça s'est répété à plusieurs reprises et peut-être pendant des années, le jour où ils commencent à en parler, ben là, il y a des gens qui vont les ridiculiser. Arrête de parler de ça, soit passer pour un fou, soit passer pour une folle. C'est très dommage. Parce que toute l'humanité est perdante. Parce que ces gens-là pourraient peut-être nous apprendre des choses. Et là, là, maintenant, on va essayer de comprendre l'agenda du phénomène extraterrestre. Il nous reste encore une dizaine de minutes, Bob.
Oui, bien sûr. Hein. Ouais.
Alors, allons-y sur l'agenda du phénomène extraterrestre. Moi, ce que je propose comme piste pour comprendre quel est le programme d'intervention du phénomène extraterrestre dans notre société.
Est-ce que tu penses, franchement, Richard, qu'il y a un programme de la part des extraterrestres, il y a quelque chose qui est programmé?
Ben, programmé dans le sens qu'ils ont un agenda. Et ils vont suivre une méthode, ouais. Et ça commence avec A, B, C. C'est un peu comme aller à l'école, hein. Tu fais ta première année, deuxième année. Ouais. Chez nous, ça commence par la première. Je ne sais pas, chez vous, c'est à l'envers, je pense que vous dites en sixième.
En sixième?
Oui. Non, je ne sais pas, là. Bon, mais toujours est-il qu'il y a une progression qu'il faut suivre. Et eux, depuis la nuit des temps, nous auraient visité, même dans des civilisations passées disparues, comme l'Atlantide, la Terre de Mu, l'Hyperborée, on peut les nommer. Comment ça s'appelle, Bleuette Dio, ouais. Va venir nous expliquer justement qu'il y a des preuves, des artefacts, des objets anachroniques. Ça se pouvait pas. Anticitaire, le fameux mécanisme d'Anticitaire dont elle va faire l'objet de son prochain livre à l'automne. Bleuette Dio dit, écoute, il y a des engrenages dans ça. Il a fallu une manufacture vraiment extrêmement spécialisée. Puis il y a un sens à tous ces engrenages-là parce qu'ils en ont refabriqué après les avoir photographiés par rayon X. Ils sont capables de reproduire des artefacts. En tout cas, ça va très loin. Donc, il y avait des civilisations qui sont venues il y a très, très longtemps. Ils ont peut-être échoué dans leur... puisque l'Atlantide a disparu, la Terre de Mu aussi, l'Hyperborée s'est disparu. Il y a peut-être eu des cataclysmes géologiques naturels. C'est pas simplement des erreurs humaines ou des guerres entre extraterrestres et humains. Mmh. Il peut y avoir eu des phénomènes astronomiques majeurs.
Bien sûr, oui.
Qui ont fait des bouleversants des civilisations passées. Ben oui. Mais on entend dire dans la Bible, dans les textes anciens sacrés, que ce soit le Mahabharata... le kung-fu, bon, on retrouve des vaisseaux qui circulent dans les airs, on voit des êtres qui sont comme des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des êtres aériens. On les représente avec des ailes, pour dire des anges, parce que quoi, ils volent. Ils volent comme des oiseaux. On leur met des ailes, même s'il n'y en avait pas. Mmh. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, on trouve sur des peintures, entre autres, des objets dans les airs. Curieusement, on se demande un peu pourquoi. Puis même en forme vraiment là, vaisseau aérien, là, très spécialisé. Des gravures aussi. En 1561, il y avait une gravure à Nuremberg qui montre un balai d'objets qui circulent dans les airs. On disait à ce moment-là, c'était comme des lances ou comme des disques lumineux. Ah. Alors, on comprend aujourd'hui hein, que ça peut être des cigares dans le jargon ufologique puis des chocos volantes. Il y en a eu comme ça. Après, dans l'époque technologique, on les voit arriver comme au début. On retournera en 1896 avec des passages au-dessus de toute l'Amérique du Nord de vaisseaux qui ressemblaient, en 1896, des vaisseaux qui ressemblaient à des dirigeables et qui émettaient des lumières extrêmement puissantes, tellement que le 10 avril 1897 à New York, à Chicago, la Défense nationale envoyait des lumières vers ces vaisseaux en forme de dirigeables. Le dernier dirigeable est disparu en 1930, le Hindenburg. Là, tout le monde se souvient de l'événement. Mm-hmm. Et ensuite, on voyait des véhicules qui étaient très hétéroclites comme apparence. Et on a eu l'aviation qui est apparue en 1903 avec les frères Wright. Là. On voit que le phénomène OVNI a l'air de nous guider, de nous montrer quelque chose. Alors, si je continue avec l'air spatial, on pourrait dire que ça a débuté avec les fameuses V1, V2, les fusées, là. Ben, à la même époque, il y avait les Foo Fighters qui circulaient entre les bombardiers puis les avions de chasse durant la Deuxième Guerre mondiale. Les Foo Fighters, c'est comme des lumières très, très rapides. Et en plus, des vaisseaux assez grands, volumineux, sombres, souvent métalliques, qui se dirigeaient souvent vers le nord.
Ouais.
La Norvège, la Finlande, la Suède, etc. On a eu après ça, ben, tout le monde se souvient de la fameuse nomination soucoupe volante Flying Saucer, ouais. Ça vient de Kenneth Arnold en 1947. Mm-hmm. Alors, on voit que là, ce sont des appareils qui circulent et qui rebondissent dans l'air un peu comme des soucoupes qui flottent, qui seraient lancées sur la surface de l'eau, qui rebondissent. Là, tchou, 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 tchou. Bon, ben, à ce moment-là, on voit encore que le phénomène OVNI veut nous montrer quelque chose, veut nous montrer un chemin, une direction. On arrive à l'âge atomique. George Remsky, qui dit être monté à bord d'un OVNI, est allé en orbite autour de la Terre. Il a vu par le hublot de l'OVNI des Fireflies, des lucioles.
Ah oui.
Et quand John Glenn est allé autour de la Terre dans son Friendship 7, eh ben, il s'est aperçu que par le hublot, il voyait lui aussi des fireflies. Mais c'était évidemment pas des mouches à feu, mais c'était de l'ionisation de l'air qui faisait comme des petites étincelles autour de l'appareil. Et on avait ridiculisé Adamski avec son histoire, mais quand John Glenn est arrivé en disant « Je vois les fireflies de Adamski », il a fallu que l'autre y soit allé en premier, parce qu'il n'aurait jamais dit une chose pareille si les fireflies... Ils n'avaient pas réellement vu, puis ils appelaient ça des mouches à feu. Tout le monde le ridiculisait en disant « Il ne peut pas y avoir de mouches à feu dans l'espace, s'il n'y a pas d'air, il serait mort. » Mais c'est un phénomène astronomique qu'il ne pouvait pas connaître. Un peu plus tard, en 1961, le 19 septembre 1961, Betty et Barney sont amenés à bord d'un OVNI. La madame Betty Hill, elle subit une expérience d'amyosynthèse pour vérifier si elle est enceinte. C'est ce que les extraterrestres lui disent. Et en 1961, le test d'amyosynthèse pour les femmes enceintes n'existait pas encore nulle part dans les hôpitaux. Il nous montre le chemin, toujours un petit peu d'avance. Hein? Ouais. Un peu plus tard, ben, à Valençol, en France, vous avez un ovni en forme de tripode qui atterrit dans un champ de lavande.
Bien sûr. Hein?
Ben oui, vous en avez entendu parler, c'est sûr, avec Maurice Mars, qui
ben, voit
êtres qui sont autour. Lui est comme paralysé. Ah, on apprend que ces êtres-là ont un objet à la ceinture qui peuvent pointer vers le témoin, paralyse, ne peuvent plus bouger. Après, on attendait que des Men in Black utilisent un mécanisme, un peu comme on a vu dans Men in Black, le film, là,
ouais.
Où, avec une lumière, les gens, pouf, ils se souviennent plus de ce qui vient de se passer. Ils sont capables d'agir sur le conscient des êtres humains. Il y a eu beaucoup d'autres manifestations, j'en passe. Surtout, dans les derniers temps, on entend parler des femmes mises enceintes par des extraterrestres. Création d'hybrides.
Oui, c'est ça. On fait pas mal d'émissions de ceux, hein, Richard, sur les hybrides.
Oui, c'est ça. Alors, ce que je veux dire dans ces exemples-là, Bob, c'est que l'agenda extraterrestre nous est présenté, si on regarde un petit peu là, le passé, le passé récent comme le passé lointain, pour se rendre compte qu'ils nous présentent, eux, ils se présentent à nous, les humains, toujours avec une approche qu'on va découvrir avec les années qui vont venir après. Autrement dit, ils sont précurseurs de quelques temps. Ça peut être quelques années à peine, pour nous dire, voici, nous avons ça, vous verrez bien. Là, il y a un avion qui vient de disparaître dans l'océan Indien.
Ouais.
Bon, ça fait longtemps que les ovnis apparaissent et disparaissent. À bord de cet avion-là, là, le fameux Boeing 777, là, de Malaysian Airlines, il y avait quoi? Des spécialistes pour rendre les bateaux et les avions invisibles. Et là, on est surpris de voir qu'il est disparu. C'est un peu fou parce qu'ils avaient à bord les techniciens les plus spécialistes au monde pour faire disparaître des objets.
Mais tu sais que personne n'en a parlé hein, de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est-à-dire que nous, on a évoqué l'information, on l'a relaté, mais pas les médias classiques n'ont rien, ne sont pas allés sur cette piste-là. Le côté ingénieur, militaire, personne n'a évoqué ça. Hein.
Ah, ici, ça a été suivi longtemps, puis quand on a vu la liste des 8 spécialistes du monde pour rendre les objets invisibles, les chars d'assaut, les bateaux invisibles, les avions invisibles de l'armée, puis tout d'un coup, toute la bande ensemble, pouf, ils disparaissent. Ben oui, mais ils sont dans un vaisseau, ils sont dans un avion, probablement qu'ils avaient déjà préparé ce qu'il fallait pour qu'ils deviennent invisibles. Mmh. On retrouvera peut-être des objets, mais pour le moment, il y en a qui ont prétendu que ça pourrait être un ovni qui était venu happer l'avion au-dessus de l'océan Indien, toutes les théories sont possibles. Moi, celle que je préconise, je pense, c'est simplement militaire. C'était une expérience pour vérifier l'acuité de rendre invisible un appareil, puis c'est devenu invisible vraiment. Puis on a la preuve, mondialement, on en a entendu parler. Alors, la technologie est à la portée de tous maintenant. Et encore une fois, tout ça, ça nous a déjà été montré dans le passé par le phénomène OVNI. Restera un jour à élucider les fameux crop circles. Les cercles céréaliers, là, les agroglyphes. Là. Parce qu'ils ont débuté au début des années 90 avec des petits messages très simples, des dessins assez simples. Et ils sont devenus de plus en plus complexes. Au début, on voyait que c'était l'explication du fractal. Hein, le petit, plus gros, est devenu très, très, très gros. Alors, ils utilisaient le principe des fractales dans les dessins, mais ensuite, c'est devenu beaucoup plus scientifique. Il y a même des scientifiques qui cherchaient en Allemagne une explication à une théorie Et le lundi, il arrive un des ingénieurs qui arrive à la réunion des scientifiques en leur disant, regardez le dernier crop circle qui est apparu. Ils sont restés bouche bée. La réponse à leur question scientifique, la réponse était là, dans le crop circle. Allez, il y a quelqu'un quelque part qui joue avec l'humanité, mais arrêtons d'avoir peur de ces extraterrestres. Ils sont bienveillants. Alors, malevolent, comme ils disent en anglais, c'est malveillant. Benevolent, ça veut dire bienveillant. C'est un mot qu'on va sûrement entendre au Congrès à plusieurs reprises parce que c'est le grand débat. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont méchants? Évidemment, il y a des théories chrétiennes, là, le Bible Belt là, américain, là, les Born Again Christians. Pour les autres, c'est toute l'œuvre du diable. Oui, mais il y en a que quand il y a quelque chose de nouveau, ben, c'est tout de suite négatif. Quand la télévision couleur est arrivée, ah, ça va être négatif, ça va émettre des ondes, surtout s'il y a du rouge dans votre écran.
Ouais.
On entendait dire ça. Bien, on sait aujourd'hui quand même qu'il y a des proliférations d'ondes comme les micro-ondes, les sans-fil et tout ça. C'est négatif, c'est nuisible, c'est sûr. Mais il ne faut pas tout rejeter d'un bloc parce que c'est nouveau. Quand on ne connaît pas, on a peur, puis là, on veut rejeter.
Et donc, toi tu penses que ces extraterrestres, visiblement, avec cet agenda qui nous a été proposé depuis des siècles, finalement, s'ils avaient été malveillants, on l'aurait su depuis longtemps, quoi, en fait, c'est ça?
Ben, Bob, bien. Et je pense qu'ils nous mettent sur la piste, même scientifiquement, de découvrir. Regardez, on vous montre, là, bon, ben, vous le ferez bientôt. Regardez, on fait ça. Ils ont eu des manifestations. Les manifestations étaient toujours avant-gardistes de quelques années ou de quelques dizaines d'années à peine. Parce que nos scientifiques, et même, je dirais, leurs manifestations qu'on ne voit pas, mais infiltrées ou inspirées des créateurs de bandes dessinées, de cinéma, de façon à ce que la science-fiction devienne un jour la vraie science. On dit toujours la réalité a dépassé la fiction. C'est que la réalité a rejoint la fiction qui avait été inspirée à l'avance. Pensons Jules Verne.
Ouais, bien, bah, ouais, bah, ouais, bien sûr. C'est hallucinant le côté visionnaire que la science-fiction apporte toujours. Mais alors, c'est d'autant plus troublant pour Jules Verne parce qu'à l'époque, on ne travaillait pas sur les. On n'avait pas de gens qui travaillaient sur les engins, sur les objets comme De Vinci, comme Léonard De Vinci qui a imaginé des choses. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué parce que pour les gens de science-fiction, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en laboratoire, on a beaucoup d'informations et souvent, ils sont juste les précurseurs de ce qu'on va utiliser. Quelques années après, tu vois ce que je veux dire.
Exactement.
Ouais, oui.
Alors bon, pour terminer, j'aimerais répéter l'adresse pour les gens qui veulent avoir de l'information ou qui peuvent même se brancher pour être témoins du congrès qu'on fera le 31 et 1er juin. C'est orandia.ca. Et je te remercie parce que déjà vous mettez la publicité sur votre site. Un bel échange de services.
Non, mais c'est normal.
Merveilleux. Merci beaucoup. Puis, j'ai très hâte de vous rencontrer.
Oui.
J'espère que votre séjour au Québec, votre premier séjour, ben, ce sera quelque chose qui sera mémorable pour vous.
Ah, ben, j'espère.
Pour nous, en tout cas, on a très hâte de vous rencontrer, de vous serrer la main, puis de partager une fin de semaine dans le domaine de la communication. C'est ton univers, Bob.
Ben oui. Ben, en tout cas, on sera là avec beaucoup de plaisir. On reparlera, bien sûr, avant notre départ pour le Québec et le Canada, donc de cet événement incroyable, le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin. Deux jours, vous qui êtes Québécois et le reste du monde aussi, francophone, vous allez pouvoir vivre l'ufologie comme on le vit rarement avec de nombreux spécialistes. Ce sera l'occasion d'en savoir plus, bien sûr, sur ce monde incroyable qui nous fascine. Et qui fait que cette radio existe parce que c'est le sujet quand même. À chaque fois qu'on pose la question, quel est votre sujet de prédilection, c'est le sujet OVNI qui revient le plus souvent. En tout cas, mille fois merci Richard du côté du Québec d'avoir été là ce soir. Saluez monsieur. Surprenant pour nous, hein?
Ah, ben oui, tu vas rencontrer toute notre équipe, comme on va rencontrer Mathieu. Et écoute, Bob, je te fais entendre quelque chose en 3 secondes.
Allez, vas-y.
Au grand auditorium du Collège de Maisonneuve à Montréal.
C'est un rendez-vous?
Oui, c'est un rendez-vous. En tout cas, mille fois merci, Richard. Passe une excellente nuit et puis à bientôt.
À bientôt.
Vérifiez que votre porte est verrouillée. Branchez les systèmes de sécurité. 21h minuit, tout peut arriver. Bob vous dit toute la vérité.
Et bien voilà, ça a été encore une très très belle soirée. À noter que demain, l'aventure continue. Laurence Lalande sera là pour les enfants surdoués, dont je fais partie, bien évidemment. J'ai été un peu comme, vous savez, le phare au milieu de l'océan. C'est-à-dire, je brille, je rayonne et les gens se dirigent vers moi. Bon, on aura également.
C'est les parents surdoués, toi.
Oui, c'est ça. On aura Patrick Hess, ex-ministère de la Défense, pour la vérité sur le 11 septembre. Il a sa vérité. Et puis Yves Cornudet sera là également pour son livre Le Chant des Reptiles. Sur ce, je rappellerai qu'une chose, dites que ce programme. Et t'as écouté. Et s'ils sont pas abonnés, vos amis, eh ben faut qu'ils s'abonnent. Allez, sur ce, bonne nuit. Et comme je le dis tous les soirs, faites de beaux rêves ou de jolis cauchemars.
Bob vous dit toute la vérité tous les soirs de 21h à minuit. Après, plus rien ne sera jamais pareil.